Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog. On est au 533e podcast de la rédaction. Un nouveau podcast cette semaine qui va être à peu près 100% consacré à trois tests de jeux qui sont sortis ces derniers jours, dont un que ce cher Thomas va nous vanter pendant de longues minutes. Donc Thomas est avec nous, évidemment. Et il n'est pas dans sa province quantilienne en train de faire du polo, comme il a l'habitude de le faire. Il est
c'était pas du golf avec un pull mauve noué sur les épaules la dernière fois.
Il change tous les jours, chasse à cour, okay. Golf, polo. Il peut se passer des tas de choses dans la campagne quantilienne, où tu n'es pas donc, puisque tu es à la rédaction. Toi, tu as décidé de venir à la rédac pour infecter le plus possible tous nos bureaux. Merci Thomas.
Pour avoir la paix.
Ok, parce que tu ne l'as pas à Chantilly, évidemment. Du côté plutôt de Rambouillet, nous avons un autre fan de chasse à cour, mais qui ne chasse pas forcément des animaux, préfère les humains. C'est Camille, évidemment, qui est toujours avec derrière lui des tas de choses très intéressantes, toujours Kenny Reeves, évidemment, et une édition collector de 1917, si je ne m'abuse.
Qui est sorti avant le film,
ouais. Ok, d'accord. Bon, on n'est pas venu pour parler de ça, évidemment, on est venu pour parler des trois thèmes de la semaine. Il va y avoir le test de Man Eater, le jeu de requin avec un peu de RPG, exact. Donc Camille va nous parler tout à l'heure. Il y aura What the Golf, donc, qui sort sur Switch, parce que c'est plus important d'en parler sur Switch, selon Thomas. Donc, nous en parlerons évidemment tout à l'heure. Et on finira avec Minecraft Dungeons, que j'ai pu rincer en quelques heures. Je vous raconterai ça aussi un petit peu plus tard. Comme d'habitude, les rubriques habituelles, on finira avec l'anniversaire et le hors-jeu. Avant les thèmes, il y a 10 ans sur Gameblog, mais tout de suite, il y a le win et le fail. Et le win, ben ça concerne justement Minecraft, mon cher Camille.
Oui, Minecraft, on en parle toutes les semaines maintenant, quasiment. ça devient un gimmick. Donc Minecraft, on a appris de nouveaux chiffres, puisque Microsoft les a annoncés. On a appris notamment que le jeu s'était vendu à 200 millions d'exemplaires à travers le monde. Bah, vous imaginez un peu, en sachant que, par exemple, à titre de comparaison, GTA V s'est vendu à 120 millions d'exemplaires. Donc il y a vraiment
130, on a eu les chiffres, 130.
Un gouffre assez énorme entre les deux. Rien que dans l'année 2019, il y a eu 24 millions d'exemplaires qui sont vendus. Donc, une fois, c'est assez hallucinant. Et un autre chiffre tout aussi intéressant et impressionnant, c'est 126 millions. 126 millions, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de joueurs qui continuent à y jouer chaque jour, enfin tous les mois plutôt. Donc, c'est juste gargantuesque, quoi. Qui a 11 ans, ouais, et surtout un jeu qui commence malgré tout à... Malgré le RTX, malgré les packs graphiques, etc., quand même, commence à être un peu vieillot en termes d'esthétique. Disons que la plupart des joueurs n'utilisent sans RTX ou sans pack graphique, hein, mais puisqu'il y en a qui l'utilisent en mode vanilla. Et donc, c'est un jeu qui malgré tout continue son bon de chemin et on sent que Microsoft a fait un très bon move en rachetant Mojang. C'est vraiment, je pense, le jeu qui a le plus, qui m'impressionne encore le plus, de me dire que quand moi j'y ai joué, j'étais encore au lycée, ça me rend perplexe, quoi.
Ouais, effectivement, 200 millions, c'est assez énorme, ça bat à peu près tous les autres jeux qui existent, hein. Tetris aussi est dans les cordes, malgré ses 28 milliards de déclinaison sur toutes les plateformes possibles. Donc c'est vraiment, vraiment très très impressionnant pour Minecraft, et ça sera d'autant plus intéressant d'en parler tout à l'heure avec Minecraft Dungeons. Le fail de la semaine, lui, concerne, eh bien, je crois que comme la semaine dernière, il y a des choses qui vont pas arriver à l'heure, mon cher Thomas.
Encore des victimes collatérales, et pour le coup, on vous offre une double dose de fail et donc de report en fait cette semaine, puisque il y a de la déception pour à peu près tous les goûts. Les fans de manga d'abord seront évidemment très tristes d'apprendre que Fairy Tail, donc la nouvelle adaptation en RPG du manga de Hiro Mashima, a une nouvelle fois été reportée, puisque la première fois qu'on avait pu découvrir le jeu, il était annoncé pour le mois de mars 2020. Il a ensuite été reporté au 25 juin. Et puis, bah, pandémie mondiale oblige, dorénavant, il faudra attendre le 30 juillet, c'est sa date officielle de sortie chez nous. Espérons évidemment que ça donne aux équipes le temps de peaufiner un petit peu le bestiau, puisque comme à chaque fois qu'il y a un retard dû au Covid-19, l'équipe nous assure évidemment que tout le monde est au travail, tout le monde est à fond pour peaufiner le jeu jusqu'au bout. Donc voilà, dorénavant, rendez-vous le 30 juillet prochain sur PC, PS4. Je ne sais plus si le jeu est prévu sur Xbox One ou pas. Tiens, il va falloir regarder ça de près. On vous dira ça avant la fin de cette rubrique. Et le deuxième report, eh bien, c'est pour les amateurs de conquête spatiale, puisque c'est Kerbal Space Program 2 qui a été lui aussi reporté. Souvenez-vous, le jeu avait fait son petit effet lors de son annonce, lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2019. On avait pu le découvrir pour la toute première fois. À l'époque, il était annoncé pour le printemps 2020. On est en plein dedans. Finalement, il avait été décalé assez largement à l'année fiscale 2020-2021, c'est-à-dire grosso modo sorti au plus tard le 30 mars 2021. Et puis là, finalement, il a été une nouvelle fois reporté pour les mêmes raisons, hein, Covid-19 oblige, à l'automne. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup de patience désormais pour pouvoir projeter à nouveau des Kerbal dans l'espace. Et l'équipe a, pour le coup, évidemment affirmé qu'ils étaient à fond, mais que le travail que nécessitait cette suite était assez balèze et qu'en fait, ils n'avaient pas forcément anticipé que ça leur demanderait autant de boulot pour faire tout ce qu'ils voulaient faire correctement. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, puisque ça va leur permettre d'aller au bout de leurs idées. Et on sait que c'est une suite qui est quand même particulièrement attendue.
Exact, exact. Mais bon, tout ces retards, ça commence à devenir un petit peu pesant, si je puis me permettre.
Oui, mais il y a plein d'autres trucs qui vont arriver entre-temps, ne vous inquiétez pas.
Ah bon ? Vraiment ?
Bah oui, mais il y a des jeux qui sortent toutes les semaines, écoute.
Ah bon ? Attends de s'ennuyer. Mais je ne savais pas ça. Très bien, heureusement que tu es là pour m'éclairer, Thomas, et heureusement que tu es là aussi pour nous parler de ce qu'il y avait il y a 10 ans sur Gameblog. Alors, il y a 10 ans, Thomas, on parlait de Rockstar, comme d'habitude, j'ai envie de dire.
Comme la semaine dernière, on vous l'a rappelé, c'était les 10 ans de la sortie de Red Dead Redemption, dont tu nous as évidemment chanté les louanges dans une déclaration enflammée. Et pour le coup, Rockstar était évidemment, réputation sulfureuse oblige, passé sur le grill des critiques, puisque l'un des développeurs maison était interrogé sur la BBC, sur le caractère violent en fait des productions Rockstar. Alors je pense qu'ils n'avaient pas compté table tennis dans l'eau, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ils se défendaient des accusations qui étaient formulées à l'encontre de leur jeu en rappelant un principe un petit peu élémentaire, mais comme on vous le disait à l'époque sur Gameblog, tant que tout le monde ne l'aura pas intégré, il faut le rappeler. Et il nous rappelait donc que les jeux Rockstar étaient des jeux qui n'étaient pas du tout conçus pour les jeunes, mais qui étaient développés pour un public adulte. Et dans sa déclaration, il expliquait que si vous étiez un parent et que vous achetiez un de leurs jeux pour votre progéniture encore mineure, vous étiez un parent épouvantable. Voilà, tout simplement. Donc, en rappelant forcément que la signalétique existe pour quelque chose. Et ce qui est assez étonnant, en fait, avec le recul, c'est que Red Dead Redemption, finalement, qui est un jeu entre guillemets aussi mature et violent qu'un Grand Theft Auto, a finalement pas généré beaucoup de remous à sa sortie. Il n'y a pas eu, comme le mode Hot Coffee ou ce genre de choses, tout ce qu'on a pu voir autour de GTA, il n'y a pas finalement eu une levée de bouclier. Alors, j'imagine que la thématique western était sans doute trop éloignée de l'actualité pour que ça fasse véritablement polémique à la télévision. En tout cas, voilà, ce développeur qui s'appelle Laszlo renvoyait un petit peu dans les cordes les journalistes en leur expliquant que c'était quand même aux parents de faire leur boulot et de mettre le nez dans les jeux de leur progéniture.
Mais il avait bien raison, ma foi. La deuxième news d'il y a 10 ans concerne Blizzard et un système de protection qui ne fait pas toujours l'unanimité.
Les éternels DRM, dont on vous parle finalement assez régulièrement ces dernières semaines dans notre rubrique nostalgique. Et là, pour le coup, c'était Raon qui nous expliquait en fait quelle était la philosophie de Blizzard pour sa plateforme Battle.net. Alors, l'ouverture remonte à 96, c'était pas non plus super nouveau. Mais en l'occurrence, on était justement en plein débat sur l'utilisation des DRM, puisque chez Ubisoft, chez Electronic Arts, ça popait un petit peu dans tous les sens et je cite Raon, ça emmerde plus souvent les joueurs honnêtes que les pirates, voilà, refermez les guillemets. Et pour le coup, l'approche pour laquelle optait Blizzard, c'était de se dire, on va pas imposer les DRM aux joueurs, on va prendre le problème dans l'autre sens. L'idée, c'était de proposer des services en étant connectés qui seraient tellement indispensables que les joueurs, même solo, n'auraient finalement pas envie de jouer offline. En l'occurrence, un certain StarCraft 2 n'allait pas tarder à débarquer. Il était évidemment très attendu puisque il s'est écoulé pas loin d'une dizaine d'années entre la sortie du premier et du deuxième opus. On sait à quel point le jeu était phénoménal déjà à l'époque sur la scène de l'e-sport. Et donc l'idée, c'était de dire, même s'il y a une partie solo, il faut donner en fait une raison aux joueurs de vouloir jouer connecté sans l'obliger, mais il faut qu'il y ait un tel manque en fait dans la partie offline que tout naturellement il aura envie de rester connecté à Battle.net, quelle que soit la configuration dans laquelle il est. Et ça avait plutôt bien marché, à l'exception des joueurs qui ne voulaient pas jouer hors ligne, mais en réseau local, puisque il n'y avait pas de mode LAN qui était prévu à l'origine dans StarCraft 2. Évidemment, on se doute que ça a entraîné pas mal de mécontentement au vu de la popularité du premier épisode qui était encore très joué en réseau local. Et malgré une pétition de 250 000 signatures, eh bien, Blizzard Activision n'aura pas craqué et n'aura pas ouvert le jeu justement au réseau local. Donc, il sera resté dans sa configuration initiale et il faudra y jouer sur Battle.net pour en profiter.
Très bien. Et pour la troisième news, eh bien, on va parler justement d'ouverture d'esprit cette fois, parce qu'il y a quelqu'un qui, il y a 10 ans, disait que il ne boirait jamais d'une certaine eau, de l'eau de No More Heroes 3. Et bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu loupé.
On peut dire qu'il nous a peut-être un peu pipoté. C'est évidemment Suda Goichi dont il est question, puisque, comme tu le disais, il y a 10 ans, le père Goichi n'envisageait pas de suite à No More Heroes, donc pas de troisième épisode, puisqu'il nous expliquait que les aventures de Travis Touchdown se terminaient avec No More Heroes 2, et que donc il n'y avait pas forcément besoin de raconter autre chose, et que dans le même temps, il nous expliquait aussi qu'il avait quand même très envie de rebosser sur la licence Killer 7, une licence qui m'est chère et qui est chère à notre cher Julo également. Et 10 ans plus tard, on peut regarder un petit peu ce qu'il en est des déclarations de l'époque de Goichi. Alors, Killer 7, si on ne l'a pas revu dans un autre épisode, il aura quand même profité d'un remaster qui est sorti en 2018 sur PC. Alors, Goichi répète encore et toujours qu'il a envie de retravailler sur la licence, mais a priori, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. En l'occurrence, pour No More Heroes, on sait que l'histoire a été un petit peu différente de ce qu'on nous avait promis, puisque d'une part, on a eu un épisode un petit peu spin-off qui est sorti en 2019, qui s'appelait Travis Strikes Again No More Heroes, que Tiger avait un petit peu défoncé pour nous dans les colonnes de Gameblog, puisque c'était pas a priori un chef-d'œuvre de game design. Et surtout, le 11 juin 2019, on apprenait l'officialisation d'un No More Heroes 3 en bonne et due forme, avec en plus le retour de Travis Touchdown, une fois de plus. Donc ça aurait pu être un autre héros, dans quel cas Goichi aurait un petit peu tenu parole, mais non, c'est bien son héros masturbatoire qui revient sur le devant de la scène. On attend jeu pour cette année. Ça ne fait pas partie des jeux victimes du Covid-19 qui ont vu leur date de sortie repoussée. En tout cas, voilà, ces déclarations 10 ans plus tard, finalement, elles sonnent un petit peu caduques.
Absolument. Merci pour cette pastille il y a 10 ans sur Gameblog. On va maintenant attaquer les trois thèmes de la semaine. Le premier thème, c'est un jeu de requins. Voilà, un jeu de requins. C'est pas si banal que ça aujourd'hui. Elle est dans de la merde qui est repassée il y a quelques jours en plus, donc c'est très bien. C'est le moment de se plonger dans Manhunter, donc Camille, qui est sorti ce vendredi sur PC, Xbox One et PS4. Camille, ça parle de quoi, Manhunter?
C'est un RPG aquatique. Voilà. C'est un RPG aquatique. Rien que cette description-là m'avait bien fait rigoler. Et j'avais pu y toucher donc il y a quelques mois de ça. Le jeu m'avait pas mal tapé dans l'œil. Donc là, on a touché évidemment la version finale, donc ce RPG aquatique dans lequel on joue un requin bulldog. Un requin bulldog, qu'est-ce que c'est? C'est une des espèces qui est, on va dire, décrite comme celle la plus à tort. La plus mangeuse d'hommes, en fait. C'est vraiment le requin qui est chaque fois pointé du doigt pour attaquer les humains. En vérité, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on sait qu'il y a d'autres espèces qui sont responsables de ces attaques. Mais du coup, on joue un requin bulldog. Donc du coup, c'est un requin d'une très bonne taille, alors moins gros que le fameux requin blanc qu'on entend souvent parler, ou qui est présent justement dans les bancs de la mer, comme tu citais précédemment. Donc là, on va commencer l'aventure en étant tout petit. Donc c'est un jeu qui se passe à la troisième personne. Tout petit, ça commence dans un bain de sang, puisqu'en fait, on va se faire capturer par un pêcheur qui a une dent contre un requin. Enfin, qui a une dent contre les requins, tout simplement, et en fait, qui va tout simplement tuer notre mère, donc le maire de notre requin, et nous extirper de force du ventre de la mère. Alors, vous imaginez la scène un peu gore. En fait, il prend un gros couteau de boucher, il charcute le ventre de la mère et il nous chope juste avant notre naissance pour nous balancer dans l'eau, et au passage, il nous fait une grosse balafre sous notre aileron. Donc voilà, ça c'est pour placer un peu l'ambiance. Et forcément, bah du coup, vu que notre requin, il a vu ça tout petit, il va avoir aussi lui aussi une dent, mais contre tous les humains. Et il va se retrouver dans une sorte de vengeance absolue ou inarrêtable, dans lequel la moindre vue de l'humain va le rendre fou, et il va devoir comme ça tuer tous les humains qu'il va trouver sur le bord de plage, en haute mer, etc. Et donc ça va donner lieu à une furie complètement frappadingue, qui est assez drôle. D'ailleurs, le jeu fait preuve d'humour. Alors c'est un humour, on n'accroche pas, parce que c'est quand même un humour assez sombre, assez grotesque, voilà. C'est vraiment le mot qui va, c'est grotesque. Ils ont placé... la voix qui un peu imite les personnages, les voix de documentaires animaliers comme National Geographic, etc., avec un ton comme ça, un peu, j'allais pas dire pédant, mais un ton vraiment spécifique. Vraiment, ceux qui connaissent les documentaires animaliers, vous voyez très bien de quoi je parle. Et donc, il prend un peu ce ton, mais pour éviter des âneries, en fait. C'est-à-dire qu'il va nous raconter ce qui se passe à l'écran, mais de manière complètement caricaturale, en faisant des jeux de mots, etc. Il y a aussi, il n'y a pas de traduction française, hein, ça va être une voix off en anglais, mais le jeu est quand même traduit dans les sous-titres, etc. Et justement, bah, les traducteurs se sont donnés à cœur joie, donc on a des droits à des noms de quêtes complètement fous. Alors ça passe par le jeu de mots un peu vaseux sur les crocodiles et ses caïmans, la même chose, enfin les genres de trucs comme ça. Un peu les blagues à papa, quoi, un peu ce genre de trucs-là, mais aussi des blagues un peu plus poussées, voilà, avec des clins d'œil à la pop culture, notamment aux Dents de la Mer, évidemment. Évidemment, on peut pas passer aussi au film Piranha 3D. Enfin, il y a vraiment plein de clins d'œil à des films de la pop culture en rapport avec les requins, avec les fonds marins, etc., etc. À Titanic aussi, on a des...
Ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. De toute façon, Trazer a déjà fait toutes les blagues en question.
C'est ça.
Donc, il
C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec un jeu, voilà, avec une pointe d'humour, comme je disais, grotesque aussi, qui se présente dans le gameplay. C'est-à-dire que souvent, les plongeurs, les vacanciers qu'on trouve, ce sont des gens obèses. Du coup, ce sont des gens qui vont se déplacer très lentement, et ça va donner lieu à ce que vous imaginez, c'est-à-dire des gens qui se débattent du mieux qu'ils peuvent dans la mer, et on va devoir les poursuivre. Enfin, c'est vraiment c'est très grotesque, très caricatural. Donc le jeu, pourquoi c'est un RPG? Parce qu'il nous propose donc un système de points à utiliser. En fait, on va monter en niveau, monter en gamme petit à petit. On va commencer, comme je vous l'ai dit, vraiment en format menu bébé. On va faire, je sais pas, un peu moins d'un mètre, 80 cm. Et au fur et à mesure, on va passer à l'âge adolescent. On va faire dans les 1m20. Et ensuite, on va passer à l'âge adulte, qui fait entre 2m10 et 2m20, quoi, à peu près. Voilà. Et du coup, on va se retrouver comme ça à monter en gamme, monter en puissance. On va évidemment avoir des améliorations qu'on va pouvoir débloquer de plusieurs manières, soit en faisant des quêtes, dans notre fameuse quête de vengeance, soit en trouvant des loots. Donc des loots, ça va passer en plusieurs choses, soit en tuant des animaux spécifiques un peu rares. Par exemple, on a un crocodile, c'est un caïman en l'occurrence, un caïman albinos par exemple. Donc si vous le tuez, vous allez récupérer un loot spécifique, et les loots, c'est vraiment des trucs assez fous. Alors au début, c'est des trucs très réaliste, ça va être un sonar, on appelle ça un sonar chez les requins aussi, mais c'est l'équivalent d'un sonar, c'est cet organe qui va permettre aux requins de mieux se repérer en haute mer. Donc on va pouvoir faire une amélioration par rapport à ça, et puis très vite, on va dégénérer dans un truc complètement fou, complètement what the fuck. On va avoir des dents électriques, on va avoir une sorte d'ossature au niveau des dents qui va permettre de mieux attaquer, mieux faire couler les bateaux de plaisance ou les bateaux de pêche. On va avoir comme ça une multitude de choses qui vont rendre le jeu complètement fou. Au début, on a vraiment un requin avec un aspect classique de requin bulldog, et au fur et à mesure, on va vraiment avoir un monstre mutant avec une mâchoire démesurée, des dents encore plus longues, des couleurs un peu bariolées, etc., qui vont permettre d'avoir un truc, vraiment une vraie machine de guerre en haute mer, et c'est complètement fou, quoi. On a aussi ça qui fait appel au RPG. On a évidemment le système de quête, d'exploration, etc., qui rappelle vraiment tout ce qu'on retrouve dans les RPG, mais de manière un peu caricaturale. L'exploration, elle va être très simple, hein. Ça va être trouver des points d'intérêt sur la carte. En général, il y en a une dizaine par zone. En fait, la carte est découpée en zone. On a une zone gigantesque qui est en fait une. C'est un peu c'est l'équivalent un peu de la Floride en fait. Découpé, on a un bayou, on a une zone de plaisance pour les vacanciers friqués, on a une zone un peu industrielle, polluée, etc. Et comme ça, en fait, notre map, elle est découpée en plusieurs parties, et chacune des parties a sa propre touche, en fait, avec évidemment une direction artistique qui est différente à chaque fois et qui va permettre un peu de varier les plaisirs. Ouais, je t'écoute.
J'ai une petite question, parce que j'ai quelques... Ouais. Souvenir un peu traumatisé de jeux de dauphins sur console Sega, je citerai pas la série, mais je me demandais si c'était jouable en fait.
Ouais, ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que au début tu te dis effectivement un jeu de requin, est-ce que ça va vraiment valoir l'intérêt, surtout que les mêmes créateurs, donc ils sont derrière Killing Floor, qui est un FPS vraiment renommé, un des créateurs avait créé Deft il y a quelques années, qui était un jeu en fait où tu jouais l'inverse, tu jouais un chasseur. Et tu avais des requins qui, toi, tu jouais un chasseur de trésors, et tu avais des requins qui te poursuivaient. Mais dans l'autre sens, c'est vrai, dans le sens du requin, c'était assez rare, et c'est quelque chose que tu te dis, bon, voilà, c'est pourquoi pas. Et en fait, tu te rends compte que ça marche assez bien. On est à la troisième personne, le jeu est assez fluide. Alors, moi, j'ai joué sur PC, il y a des problèmes sur PS4 de fluidité, mais on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, sur PC, c'est assez fluide. Pourtant, sur une machine, c'est vraiment assez honnête d'entrée de gamme. En l'occurrence, c'était une GTX 1660 Ti. Donc, ça marche plutôt bien là-dessus. On est à la troisième personne. Notre personnage, notre requin, se déplace de manière aisée dans l'eau. On a une touche pour en fait faire l'équivalent d'un sprint. Enfin, c'est pas un sprint, mais en fait, on a une vitesse lente et une vitesse, c'est quand les requins ils avancent comme ça ou comme les dauphins un peu en zigzag pour avancer plus vite. On a un peu cet aspect-là. On a aussi des trucs un peu plus what the fuck où notre requin va se jeter hors de l'eau tel un dauphin. Tu sais, les fameux bandes dauphins qui sautent comme ça. Là, on a un peu ça, mais avec le requin. Et du coup, ça a donné lieu à des trucs un peu fous. Mais donc, notre requin peut se déplacer plus vite à la surface comme ça. On a aussi un déplacement à la surface juste avec l'aileron. Le fameux aileron de requin du démon de la mer, quoi, qui va permettre de faire peur aux humains aux alentours et aussi de faire des pointes de vitesse. Donc, on a ça pour se déplacer. Et ma foi, ça marche plutôt bien. Autant que dans les fonds marins qu'à la surface de l'eau. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu me fais penser à ça. On peut aussi se déplacer sur le sable. Alors, c'est complètement fou. T'as dû voir ça dans des documentaires animaliers. Tu sais, comme quand un poisson est hors de l'eau, tu sais, il saute de manière un peu grotesque pour essayer de retourner dans l'eau. Là, on a un peu ça façon requin, donc encore plus gros. Notre requin va faire des bonds un peu grotesques pour essayer de. Et tu peux continuer, tu peux choper des baigneurs qui sont. Enfin, des baigneurs qui sont en train de faire un bain de soleil, les choper sur leur serviette de bain et repartir de manière tout aussi grotesque pour retourner dans l'eau, tu vois. Donc, t'as ce côté-là qui est complètement fou, complètement décalé. Donc, faut pas rechercher du réalisme là-dedans. Hein. C'est les seules choses réalistes qu'il y a, ça va être les espèces marines qui sont décrites. C'est-à-dire que la voix off va nous donner des faits intéressants sur les espèces marines, sur les tortues de mer, sur les cachalots, sur certaines espèces de requins, etc. Mais tout le reste, c'est vraiment fictif et vraiment délirant. Déjà notre requin, on sait que les requins attaquent de temps en temps les humains, mais c'est quand même, ça reste quand même assez rare. Et là, on est vraiment dans une folie meurtrière où on va bouffer des humains à la pelle. D'ailleurs, c'est pas un jeu très péta-friendly parce que c'est un jeu où on va aussi dévorer, attaquer la moitié des espèces, même plus de la faune marine. On va bouffer des tortues de mer, on va bouffer des dauphins, on va bouffer tout ce qu'on trouve pour régler la vie.
Alors que ces espèces-là t'ont rien fait parce que les humains. Ouais. J'ai vu la cinématique d'intro, on voit effectivement la mer qui se fait violemment éventrer, les bébés requins qu'on est extirpé et tout. Tu peux comprendre qu'il ait une dent contre eux, mais le reste de la faune ne lui a rien fait finalement.
Ouais, c'est ça. En fait, t'as deux sortes de faune. T'as la faune neutre. La faune neutre, ça va être les tortues de mer, ça va être les mérous, etc. Enfin, tous ces trucs-là qui sont pas spécialement agressifs. On a des phoques aussi. Et on a la faune un peu plus agressive. On va avoir les barracudas, on va avoir d'autres espèces de requins, on va avoir le cachalot, etc., qui sont des races de prédateurs, du coup. Et eux, du coup, on va pouvoir les attaquer et récupérer de la vie aussi. Et en fait, toutes les races neutres, en fait, ce sont des proies, donc elles sont très faibles à attaquer. Donc, forcément, quand on les attrape, elles donnent moins de vie, elles rendent moins de vie que si tu attaques un autre requin. Mais ça permet comme ça de régénérer effectivement ta vie. Tu as aussi des crocodiles dans le bayou, des caïmans, et qui sont à plusieurs stades aussi. Tu as le stade évolué, donc le grand caïman adulte, et tu as le caïman un peu adolescent, on va dire, qui va permettre de faire des combats un peu plus rapides. Donc ouais, effectivement, tu peux t'attaquer à des espèces qui ne t'ont rien fait en apparence, En fait, notre requin est devenu un peu fou, quoi. Il attaque tout ce qui passe, tout ce qui lui passe sous la.
Oui, non, mais là, si t'écoutes Thomas, le requin, il faudrait qu'il devienne végane.
Non, mais qu'il bouffe des humains, c'est logique. Mais le reste,
non, c'est pas logique.
Bien fait, par exemple.
Bah si, c'est fait partie de son alimentation de base.
Ok.
Ouais.
Mais il se nourrit en bouffant des gros. Parce que Camille a dit que les gens étaient obèses, donc dire ça doit bien le nourrir quand même.
Bah oui, mais bon, dans la vraie vie, désolé, mais un requin, ça bouffe du poisson. Ça bouffe ce qu'il y a dans la mer. Bah ouais.
D'autant qu'en plus, t'es obligé de te nourrir très souvent, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, c'est le seul moyen de récupérer de la vie. Et en plus, t'es très, très souvent attaqué, en fait. Quand t'es dans le bayou, tu te fais attaquer par des caïmans sans cesse, des barracudas qui t'attaquent, etc. En haute mer, t'as un cachalot, ce qui est la créature qui est le plus haut niveau, en fait. Level 30 ou 40, je sais plus. Effectivement, au début du jeu, si tu te retrouves en haute mer avec un cachalot qui te poursuit, il va te tuer en deux coups. En plus, il fait des charges. Enfin, c'est abominable à tuer. Donc, t'as tout cet aspect-là de vie marine qui est intéressante, mais tout le reste, c'est vraiment du pipeau. Enfin, c'est vraiment fiction. Le jeu se prend pas au sérieux, en fait. Je sais plus, j'ai vu des tests le test du jeu chez nos confrères anglais. J'ai vu des journalistes qui disaient que le jeu se prenait au sérieux, justement, moi je trouve pas, c'est pas un jeu qui se prend au sérieux, c'est un jeu vraiment qui
de quoi. Quand tu vois un trailer où tu as le requin qui renvoie un lance-roquette avec un coup de queue, enfin bon, dis-moi,
oui, c'est ça, c'est
pas parce que le jeu il se prend au sérieux, quoi.
C'est ça, le jeu se prend pas du tout au sérieux, c'est totalement fou.
C'est pour ça qu'ils ont pas mis la caution scientifique,
c'est ça. On a un système qui reprend beaucoup de choses qui sont dans le jeu vidéo, notamment le système de Far Cry, du dernier Far Cry aussi, tu as des barons de la drogue, enfin des boss à tuer dans chacune des zones. Et ben là, on a un peu ça qui se retrouve. On va devoir comme ça assassiner des têtes de liste qui sont des pêcheurs, on va dire du pêcheur haut de gamme, des pêcheurs bien connus dans le monde de la pêche. Et en fait, il y en a une dizaine. Et chaque fois, ça va être l'occasion d'avoir une manière de présenter un pêcheur différemment. Donc, effectivement, tu parlais de lance-roquettes, parce qu'à la fin, tu as des pêcheurs surarmés. Alors déjà, les premiers pêcheurs, c'est pas des pêcheurs comme on l'imagine, qui pêchent avec leur canne à pêche tranquillement. Hein. C'est des pêcheurs qui vont au fusil d'assaut. Donc déjà, c'est une vision particulière de la pêche, qui balance des explosifs, etc. Enfin, c'est assez fou aussi à ce niveau-là. Qui se baladent sur des bateaux de pêche surarmés avec des... Enfin, ils ont des équipes entières d'intervention sur leur bateau de pêche. Voilà, donc c'est assez fou aussi. Et donc, en fait, chaque fois qu'on va les tuer, on va pouvoir faire progresser notre zone de progression dans une partie de la carte et passer à la suivante. Dès le début du jeu, tu peux directement, si tu veux, aller dans une zone au level, c'est-à-dire en haute mer, vraiment en pleine haute mer. Mais du coup, tu vas te faire attaquer par des créatures qui sont en général à 5, 6... 7 ou même voire 10 niveaux de plus que toi, et du coup c'est impensable d'aller dans cette zone là donc le jeu est quand même cisaillé et pour qu'on puisse rester dans une zone avec des créatures qui sont à notre niveau. Voilà,
donc très bien. Alors là, si on t'écoute, ça comment dire, c'est toujours un peu la même routine,
ouais,
en fait.
C'est
répétitif.
C'était j'ai parlé un peu des points positifs. Maintenant, les points négatifs, effectivement, c'est que tu as un peu une routine qui s'installe très rapidement. Au début, tu as vraiment la joie de découvrir un jeu de requin où tu as une certaine liberté qui t'est offerte quand même, puisque c'est quand même rare un jeu où tu incarnes un requin. Donc, tu prends plaisir à explorer, à aller dans les fonds marins. Surtout que le jeu est techniquement assez beau, assez joli, donc tu prends plaisir à ça. Mais très vite, au bout, on va dire de 4 heures, même voire 3 heures, tu te dis, ah ouais, là je sens que je fais un peu toujours la même chose, puisqu'en fait toutes les quêtes sont basées sur le même principe, tu as la même chose qui revient, c'est-à-dire que tu dois soit tuer X humains, donc tu as 10 humains à une dite plage que tu vas devoir tuer, ou alors récupérer un coffre à un endroit, et en fait les objectifs c'est souvent ça. Et une fois que tu as fait ces objectifs-là, tu vas devoir tuer ce fameux pêcheur ultime, ce boss. Et ensuite, tu passes à la zone suivante et tu fais exactement la même chose. Là, dans la zone suivante, la seule chose qui va changer, ça va être les créatures que tu rencontres, qui sont à des niveaux plus élevés, et des créatures qui sont un peu différentes. Au début, tu as les crocodiles, après, tu as des requins, etc. Mais au final, c'est un peu la même chose, effectivement. Surtout qu'en plus, les ennemis s'attaquent et se tuent de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, tu te rends compte que tu as une routine de combat qui s'installe. Par exemple, pour les crocodiles, au début, tu te fais chasser, tu te fais déglinguer en quelques minutes, et au fur et à mesure tu comprends très bien comment fonctionne l'IA, et c'est un peu aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait tu vas attaquer un peu en piquet, tu vas ensuite faire un aller-retour, tu vas revenir faire une attaque, et ainsi de suite. En fait, tu vas enchaîner ça, et finalement, à la fin, tu vas ne plus jamais te faire attaquer par le crocodile, la créature en face de toi, puisque tu vas trouver sa routine de combat, et tu vas tout de suite comprendre quels sont les points faibles. Et en fait, ils ont tous les mêmes points faibles, et tous les mêmes points forts. La seule créature qui change un peu, comme je vous l'ai dit, c'était le cachalot, puisque le cachalot, je me souviens plus de cette créature avec un nez pointu, enfin, c'est un requin, tu sais, qui charge, et qui a le bout du nez en pointe.
Je vais tenter un espadon, mais.
Ah, c'est ça, ouais, c'est un espadon, voilà, très bien. Donc, t'as l'espadon et t'as le cachalot qui ont des techniques un peu de chasse différentes, c'est-à-dire qu'ils te chargent avant d'attaquer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment chaque fois toujours la même chose. Donc, bah, forcément, tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce que bah, t'as toujours le même combat, t'as toujours les mêmes quêtes, t'as toujours les mêmes objectifs. T'as toujours finalement les mêmes blagues qui reviennent, parce qu'au début, bah, le mec, il a plein de blagues à te sortir parce que tu découvres l'univers. Mais le mec finit par tourner en rond parce que finalement tu retrouves toujours la même chose, ça reste des fonds marins. Au début, t'as une zone qui est intéressante où t'as de la pollution, donc ça permet de faire aller de la politique un peu de bas niveau où t'as un mec qui t'explique que voilà, c'est mal, on pollue les océans, machin, donc c'est super. Et ensuite, tu vas dans les fonds marins, tu vois la différence avec les zones polluées. Donc ça, c'est intéressant, mais ça, c'est jamais assez profond. Tu te retrouves toujours avec les mêmes choses, les mêmes objectifs, les mêmes mécaniques qui se retrouvent, et finalement, effectivement, c'est très, très barbant, quoi. Très barbant au bout de quelques heures, quoi. Et c'est vraiment la grosse problématique du jeu. Et surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, la version PC est très, très jouable, etc. Mais la version console, c'est une autre paire de manches, surtout la version PS4 qui est apparemment assez catastrophique. Il y a des crashs, il y a des problèmes de fluidité, le jeu n'est pas du tout fluide. Et c'est un peu problématique parce qu'à certaines zones du jeu, il y a beaucoup de créatures qui naviguent autour. Et si ton requin se met à ramer en l'occurrence, c'est vraiment un défi supplémentaire, puisqu'en fait, du coup, ça va totalement ruiner le combat, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais vraiment le plus gros point faible, ça reste la redondance du jeu, quoi.
D'accord, très bien.
Ouais. Et t'as, bon, sinon voilà, c'est un jeu que qui est un peu cher, il coûte une quarantaine d'euros, mais que honnêtement, quand il sera en solde, c'est un jeu qui peut faire passer le temps, qui peut être amusant en soirée, voilà, avec des potes. Ah, regarde, je joue un requin. Enfin, ça peut être marrant à jouer, mais vraiment le temps d'une soirée, quoi. Je sais pas le jeu que vous allez retourner, que vous allez retourner dans tous les sens et que vous allez dire, ah tiens, dans une semaine, je vais retourner dessus. En fait, une fois que vous l'avez fini, vous allez plus avoir envie de retourner dessus. Parce que le jeu ne force pas vraiment à ça. T'as vaguement un système de choses à débloquer. Enfin, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom.
Des succès.
Des succès, ouais, t'as un système de succès interne. Que tu débloques, mais c'est pareil, les succès, c'est toujours la même chose, quoi. Ça va être tuer X ennemis, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas fou. Je lui ai mis 6, voilà, qui est une note qui reste tout à fait honorable, hein. C'est un jeu qui est satisfaisant, voilà. C'est vraiment le mot, c'est un jeu qui est satisfaisant. Voilà.
Ok, très bien. Donc Maniteur, sorti sur PC, Xbox One et PS4. On passe au deuxième jeu, au deuxième test de cette semaine, mon cher Thomas. Celui-là, par contre, c'est pas un jeu satisfaisant du tout. Si on t'écoute, si on te lit, What the Golf, donc, qui vient de débarquer, qui arrive sur Nintendo Switch et Epic Game Store aussi, mais qui est un jeu qui a quand même quelques mois déjà au compteur sur d'autres supports. Et qu'est-ce qu'il a exactement pour lui, ce jeu de golf?
Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'il a tout. Il a D'accord. tout pour lui, ce beau gosse, en l'occurrence. Le pitch de départ, c'est que What the Golf, c'est un jeu de golf pour les gens qui n'aiment pas le golf. Voilà, le principe, c'est de dire le golf, c'est ennuyeux, changeons tout ça. C'est le leitmotiv, en fait, du titre de Treebird, qui d'ailleurs signe là son premier vrai jeu d'envergure, parce que jusqu'à présent, ils avaient bossé sur des petits logiciels sur smartphone. Là, c'est effectivement un vrai jeu qui est d'abord sorti, comme tu l'as dit, sur smartphone, qui est déjà sorti sur l'Epic Game Store et qui va arriver normalement cette année sur Steam.
Pour les
joueurs PC, voilà, il est déjà dispo dessus. Et bah, du coup, le principe, bah, ça va être de quand même garder la logique du golf, à savoir taper dans un truc pour l'emmener quelque part, donc une balle dans un trou au départ, mais bah, ça va être prétexte en fait à un nombre incalculable de déclinaisons, de blagues, de concepts, d'expérimentations, et en fait, ce serait plus un party game à la WarioWare, qui est un véritable jeu de golf, en fait, puisque c'est un stage, une idée, une mécanique, un gameplay et une blague. Toujours. Il y a toujours une blague dans chaque niveau de What the Golf. Et tout ça lui donne un rythme, une richesse et une inventivité quand même assez folle, puisque dans le mode campagne, grosso modo, on va incarner une balle de golf dans un monde avec une vue du dessus. Et puis, on va se déplacer de trou en trou pour faire plein d'épreuves. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait une petite épreuve, le jeu détourne des codes. Ça va commencer de manière tout à fait sage avec une balle dans un trou. Et puis, le stage d'après, le trou va se barrer. Ça va être à vous de le rattraper. Et puis, le stage d'après, en fait, c'est le golfeur que vous allez envoyer balader. Et puis, le stage d'après, finalement, c'est la barre de puissance qui va vous servir d'objet. Et puis, finalement, on va se retrouver à incarner une voiture ou un ballon de foot et à slalomer entre des enfants pour aller marquer un but. Ou à jouer avec la gravité des planètes pour que votre balle dessine une ellipse et aille finalement sur la Lune pour faire un trou en un. Et c'est plein de choses comme ça avec, à chaque fois, vraiment un gameplay super différent, là où la plupart du temps, les jeux qui essayent de se diversifier comme ça vont garder une structure quand même assez similaire. Là, on a vraiment presque plusieurs moteurs qui tournent dans le jeu parce qu'on a, des phases vraiment très, très, très différentes, des fois en 2D, des fois en 3D. On a plein d'hommages. C'est une véritable lettre d'amour aux jeux vidéo puisqu'on a des références, mais à l'appel. Et quand je dis référence, c'est pas juste une petite citation ou un truc comme ça, c'est que des fois, on va se retrouver dans le gameplay d'autres jeux, comme Super Hot, par exemple. Quand on arrive dans un niveau Super Putt, en l'occurrence, on voit tout de suite, c'est noir et blanc, les ennemis sont en rouge, et le temps ne défile que quand vous tapez dans votre balle. Et vous allez aussi devoir ramasser des armes, tirer sur les ennemis, jouer avec le temps qui avance en même temps que vous, pour aller jusqu'au but et donc quand même faire tomber la balle dans le trou, mais avec des mécaniques différentes. Donc on a du Super Hot, on a du Super Mario Bros, on a du Katamari Damacy, on a du Portal, il y a toute une gamme, tout un monde en fait qui est basé sur la mécanique de téléportation de la série de Valve. Et il y a des tas de références, que ce soit donc dans les mécaniques, dans l'aspect visuel et dans la narration, entre guillemets, puisque... le jeu ne raconte rien, si ce n'est une espèce d'immense blague. Et c'est un truc que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait, à chaque fin de stage, il y a un bon mot. Il y a ou une référence par rapport à la thématique du niveau, ou une blague des fois en trois temps, puisque chaque stage se découpe en trois niveaux avec des épreuves de plus en plus complexes. Des fois, il faut arriver au bout du troisième pour comprendre un peu où il voulait en venir. Et ça va, pareil, chercher dans des domaines super variés. On a les tweets bourrés de Trump, le coffee-fé par exemple, qui est d'ailleurs traduit en café pour Traz dans le même stage. En français, on a des références à la Cité de la Peur, à la version française de Captain Tsubasa. Enfin, on a plein de choses. Et en fait, on se marre parce que on passe son temps à découvrir des concepts, à expérimenter, à être surpris et à recommencer. C'est un jeu qui a une boucle de gameplay qui est très courte, mais qui est presque infinie puisque on va toujours avoir envie de découvrir l'idée qu'il y a après, d'aller au stage suivant ou de creuser une mécanique sur les trois sous-niveaux qui structurent chaque épreuve. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours une bonne raison de continuer en fait, What the Golf. Et c'est assez fou en fait, d'avoir une telle richesse, que ce soit dans les gameplays, dans les références, dans les blagues. Il y a vraiment eu un travail extraordinaire qui est fait sur ce jeu. Et qui, du coup, va plaire aux gens qui aiment bien le golf, parce que ça reste quand même un peu le fond du truc, et aux gens qui s'en foutent complètement, aux gens qui ont juste envie de se marrer, aux gens qui aiment bien les mini-jeux. Ça marche vraiment super bien. Et pendant, grosso modo, 7 à 10 heures, c'est le temps qu'il va vous falloir pour terminer la campagne dans le mode solo, et vous allez vous marrer, parce que c'est une espèce de grande aventure dans laquelle on vient à bout de monde, on affronte un espèce de boss qui lui fait plus penser à un casse-brique à chaque fois, avec pareil des petites épreuves qui vont essayer de troller le joueur, et puis on avance comme ça au fur et à mesure jusqu'à la conclusion finale, avec évidemment un boss de fin en bonne et due forme qui synthétise un petit peu tout ce qu'on a appris pendant l'aventure, avec plein de petits secrets, des trophées à débloquer, des clins d'œil aussi dans les décors. Le jeu est tellement intelligent qu'il fait subtilement référence à des séries comme Rick et Morty, par exemple, ce genre de trucs. Bref, c'est d'une richesse vraiment, vraiment incroyable. Et le truc, c'est que le mode campagne, c'est un des modes de jeu de What the Golf, parce qu'on a hérité du mobile un mode défi quotidien, donc qui tous les jours remet un leaderboard à zéro et qui va vous demander d'enchaîner en fait, admettons, 5-6 trous avec l'objectif de faire le par le plus faible possible. Donc vous pouvez voir où vous en êtes dans les classements au niveau mondial. Il y a The Impossible Challenge, qui est un espèce de mode hardcore où vous allez devoir enchaîner, mais là pour le coup vraiment plein d'épreuves pour espérer arriver en tête du classement. Là ça demande de vraiment se poser, de répéter encore et encore vos patterns, etc. Et puis surtout, l'arrivée du jeu sur Switch s'accompagne aussi d'un mode multijoueur, un mode party en fait, où deux joueurs vont pouvoir s'affronter donc dans une succession de stages qui sont en plus la plupart du temps inédits. C'est-à-dire que dans trois quarts des cas, ce n'est pas des épreuves que vous avez pu faire dans le mode solo. Ça a été vraiment pensé pour. Et à chaque fois que quelqu'un gagne, il marque un point. Et quand on arrive au bout des 10 épreuves, et là pour le coup, il y a une espèce de battle royale sur une petite île où vous allez devoir choper une balle et l'envoyer dans la tronche de votre adversaire. Et en fait, le nombre de victoires que vous avez eues pendant la partie, c'est le nombre de points de vie que vous avez. Donc, même si vous avez été pas forcément très brillant, que vous n'avez que 2 points de vie, vous pouvez quand même vous rattraper à la fin et essayer éventuellement d'aller gratter la victoire comme un party game, comme un WarioWare à plusieurs. Bref, même avec des potes, on s'éclate parce que c'est tellement ubuesque, c'est tellement what the fuck, c'est tellement azimuté que voilà, on ne peut que craquer. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas essayer What the Golf.
Très bien. Ça un jeu bien cool. On trouve à un prix raisonnable, si je ne m'abuse.
Oui, alors là, vu qu'il vient de sortir sur l'eShop, il est à 14,99 au lieu de 19,99. Donc, si vous voulez en profiter, dépêchez-vous, puisque après, il va passer, entre guillemets, plein pot, donc à 20 balles. Ça, c'est pour, évidemment, la partie Switch. Hein. J'imagine que sur l'Epic Game Store, il y a moyen de s'en tirer pour un petit peu moins. Mais franchement, pour l'inventivité, le nombre de fois il va vous faire éclater de rire à voix haute, ça les vaut très largement. Et en plus, ce mode multi va lui permettre quand même de tenir dans la durée, parce que très franchement, vous avez des potes qui passent à la maison, vous lancez quelques parties, les gens se prennent au jeu, les gens veulent essayer, et on a vite fait d'enchaîner une dizaine de duels comme ça avec des potes. Tout le monde se passe la manette parce que c'est hyper accessible, c'est une direction avec un stick, on appuie sur le bouton A pour jauger la puissance du coup. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres inputs véritablement. C'est toutes les variations de gameplay après qui vont faire que le jeu s'enrichit et se complexifie.
Très bien. Donc, What the Golf, jeu extrêmement conseillé par Thomas qui lui a mis un
9. Un 9 qui a été suppléé par notre cher Trace, puisque Trace y a essayé ce week-end. Il a adoré. Il lui a mis 9 aussi, du coup. Et je crois que notre très cher Poufy est aussi actuellement dessus et a priori rigole plutôt bien. Donc c'est quand même.
On peut l'entendre hein, pour les personnes qui nous écoutent comme pour les personnes qui nous voient. En fait, Poufy est là parmi nous et on arrive à sentir qu'il est en train de se marrer. C'est très difficile à percevoir comme ça, mais il faut atteindre un. Là, je crois que j'ai
pas. Voilà, peut-être donc, qu'il s'étouffe. Il a avalé un truc et peut-être qu'il est en train de mourir étouffé chez lui.
Exactement.
Je pense que j'ai essayé de l'avoir aussi sur Epic Game Store, essayer de me le procurer.
Je pense que tu l'as déjà.
Ok, voilà.
Allez-y. J'ai envie de vous dire, faites-vous du bien et jouez-y. Du coup, si tu l'as essayé, qu'en as-tu pensé, mon cher Plume?
Je pense que c'est génial, ouais.
Bon, voilà.
Voilà, tout simplement. Pas besoin d'en dire plus.
Très bien. Donc, voilà, c'est goldé par presque l'ensemble de la rédaction de Game Boy.
Exactement. Allez, on va passer au troisième jeu, au troisième test de la semaine. Cette fois, c'est Minecraft Dungeons. Alors, c'est pour moi, cette fois, ce petit test. Minecraft Dungeons, ça fait un moment hein, déjà que Mojang l'avait annoncé, qu'il nous avait promis ce nouveau spin-off de Minecraft. Il y a déjà eu un jeu d'aventure du côté de chez Telltale qui n'était pas extraordinaire. Là, ils se sont attaqués au Diablo-like, tout simplement. Si on devait résumer rapidement ce qu'est Minecraft Dungeons, c'est plutôt un Diablo-like pour enfants, finalement. C'est ce qu'on imagine dès le départ. On ne voit pas Mojang, devenu Mojang Studio il n'y a pas très longtemps, essayer de chasser sur les mêmes terres qu'un Diablo, qu'un Torchlight ou qu'un Wolfen en faisant un dungeon crawler super super pointu, super riche. Non, le but, c'est vraiment l'accessibilité au maximum. Et de ce côté-là, dès le départ, une fois qu'on a choisi son personnage, alors c'est que des skins hein, qu'on choisit au départ du jeu, c'est absolument pas des classes. On va voir après pourquoi. Et donc, dès qu'on rentre dans le jeu après avoir choisi son perso, c'est vraiment d'une simplicité, mais élémentaire. Il n'y a pas un moment où on est perdu, ne serait-ce que dans l'action. L'action, c'est un bouton pour l'attaque et un bouton pour les autres, pour les artefacts que vous allez pouvoir utiliser, avec une autre touche qui est la gâchette quand on joue à la manette pour utiliser l'arc, enfin les armes de à distance. L'interface en elle-même, pareil, est extrêmement épurée. Quand vous êtes dans l'inventaire, vous vous sentez absolument pas submergé par toutes les informations, puisque tout est très clair. Vous avez trois éléments d'équipement sur vous. Donc, je le disais, une arme de mêlée, une arme à distance et une armure. Les infos qui sont affichées à chaque fois sont simples. C'est vraiment limpide, hein. C'est pas comme pour un Diablo, vous allez vous retrouver avec l'épaulette, les bottes, le casque et des milliards de trucs à sertir ou à enchanter à part. Là, vous avez pour vos armures ou votre hache, épée, entrée n'importe quelle arme de mêlée ou votre arbalète ou arc, vous avez des enchantements que vous pouvez ajouter avec l'expérience que vous avez gagnée à chaque niveau. Ces enchantements, pareil, c'est très simple, hein, vous vous baladez sur l'objet pour voir quels enchantements peuvent être assignés à ces objets. Les enchantements sont toujours des compétences passives, donc ça peut être, par exemple, dès que vous vous faites frapper, ça fait des dommages à l'ennemi, ou alors ça va grossir la taille des flèches que vous avez données, ou alors ça va les multiplier, ou encore une fois, vous pouvez geler les ennemis. Toutes ces choses-là font que il y a évidemment un appel au loot, hein, vous allez vouloir rapidement essayer de faire évoluer votre équipement. Il y a aussi évidemment ces artefacts que vous pouvez équiper. Alors les artefacts, eux, ce qu'ils font, ce sont des compétences qui, elles, sont actives pour le coup. Et pareil, il y a une petite variété dans ces artefacts. Vous pouvez invoquer un loup, par exemple, qui peut être très utile, pas seulement pour faire plus de mal aux ennemis qui vont vous agresser, mais aussi pour lui prendre l'agressivité et vous en profiter pour faire du nettoyage juste derrière. Il y a des tas de possibilités qui sont offertes par les différents objets qui malheureusement ne se renouvellent pas trop avec le temps. C'est comme pour le loot, vous n'avez pas alors vous avez bien sûr des choses qui pop au fur et à mesure et qui essayent de s'adapter à votre niveau d'expérience et au niveau des ennemis que vous allez affronter. Mais c'est vrai que ça se renouvelle pas vraiment, vraiment. Le truc qui fait qu'il y a un peu de renouvellement, c'est que, comme je vous le disais, il n'y a pas de classe. Et le fait qu'il n'y ait pas de classe, en fait, c'est encore une fois une simplification qui est bienvenue pour éviter de farcir la tête des enfants qui voudraient essayer le jeu. Là, c'est les armes et l'armure que vous allez enfiler qui vont un peu déterminer ce que vous êtes. Si vous trouvez une grosse épée à deux mains, oui, elle est lente, elle tape fort, là, on peut dire que vous êtes un guerrier, surtout si en plus vous avez une armure qui va vous protéger un peu plus. Vous avez aussi des armures qui vont, elles, vous protéger un peu moins, mais vont donner beaucoup plus de rapidité, tout comme des petites armes qui, elles aussi, seront beaucoup plus rapides et qui peuvent s'avérer très utiles si vous leur mettez, par exemple, un pouvoir de gel ou autre qui fait que les ennemis ne pourront pas forcément répliquer et vous faire perdre de la barre de vie dans l'opération quand vous allez au corps à corps. Il y a des petits systèmes qui se mettent en place, c'est pas très creusé, mais c'est suffisant pour avoir envie de se faire la dizaine de niveaux que propose Minecraft Dungeons. Alors les niveaux, c'est très varié dans les thèmes, très Minecraft.
Tous les biomes, évidemment. Ouais, je suppose que c'est tous les biomes de Minecraft, t'as le désert, t'as la neige.
Exactement. Machin. T'as exactement tous les environnements habituels de Minecraft, t'affrontes des creepers, t'affrontes des petites bestioles qui t'explosent à la tronche, t'as vraiment tout ce qu'il faut, mais ça manque un peu d'interaction dans ces niveaux, ça manque un peu de vie aussi, faut pas dire que, à part des vaches et des chèvres que tu peux abattre qui font que de temps en temps tu peux te retrouver avec des morceaux de bouffe qui vont te permettre de régénérer. Il n'y a pas grand chose, j'ai peut-être vu un piaf voler une fois et c'est tout. Il n'y a pas de PNJ qui vont te donner des quêtes. Malheureusement, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on va surtout te demander d'aller d'un point A à un point B.
Et sauver des villageois, j'ai vu.
Voilà, et de temps en temps, tu sauves peut-être un villageois ou tu dois peut-être actionner un mécanisme quelque part, mais c'est tout. Ou alors tu récupères la clé. Ça, c'était une des fonctions que j'avais vu avec un des développeurs au X19. C'est que tu as une clé qui va te servir à ouvrir une porte. La clé, elle se met sur ton dos. Si jamais tu te fais toucher, la clé, elle se fait la malle et elle essaie de retourner là où tu l'as trouvé, ce qui est une mécanique rigolote, mais bon, pas non plus exceptionnelle. Ça fera un enfant en peut-être 10 minutes. Mais voilà, c'est rapidement, en fait, ça devient une grosse routine et on n'a pas un sentiment vraiment de progression épique dans le jeu. Les boss sont assez anecdotiques. Les dizaines d'armées de monstres, si tu te mets à un niveau normal, si tu ne touches pas à la réglette de difficulté qui t'est proposée au début de chaque niveau pour essayer de pimenter un peu le truc, bah, le jeu se parcourt très simplement. Il y a deux, allez, on va dire qu'il y a deux difficultés qui peuvent être facilement surmontées d'ailleurs. C'est celle de n'avoir qu'une seule potion sur toi. Et comme les artefacts, il y a un cooldown dessus, donc il faut attendre qu'elles se re-remplissent pour pouvoir la réutiliser. Donc du coup, comme ça ne nécessite pas de marcher ou de faire une action ou autre, bah, tu t'attends tranquillement dans ton coin, puis tu attends qu'elle est remplie, et puis c'est reparti, tu y retournes, donc ça, c'est pas très, très utile. Le fait que les carquois ne soient pas illimités non plus, et puis je vais rajouter la troisième difficulté, c'est le fait que tu as une roulade pour faire des esquives, et qu'après celle-ci, bah, ton personnage, il est en sueur, il est tout lent, et qu'il faut attendre encore une fois qu'il puisse le refaire, c'est pas du Dark Souls, quoi. Tu vas pas pouvoir enchaîner les roulades et continuer. Donc ça, c'est les petites difficultés qui font que si vous jouez en normal dès le départ, vous n'aurez franchement aucun problème pour arriver à la fin. Moi, j'ai dû mettre 5 ou 6 heures pour aller jusqu'au bout. Il n'y a que le dernier donjon qui m'a posé des problèmes parce qu'il y a vraiment des moments où ça devient suffocant. Puis en même temps, j'avais changé de set parce que je me rendais compte que un marteau, aussi puissant soit-il, était vraiment trop lent par rapport au nombre d'ennemis qui me tombaient dessus. Et que bah, malheureusement, à ce moment-là, les serveurs n'étaient pas vraiment en forme, donc j'avais personne pour jouer avec moi, puisqu'on peut y jouer en multi, on peut y jouer jusqu'à 4. Et c'est peut-être là d'ailleurs que ça va être le plus intéressant. Aussi, je pense que c'est un jeu qui est très orienté familial, un jeu que vous allez pouvoir faire un week-end avec un enfant probablement qui va pas vous laisser un souvenir impérissable, qui va vous amuser pendant le moment auquel vous allez y jouer, mais ça s'arrête là. Je vois pas trop, en ayant fini le jeu et en ayant débloqué le niveau de difficulté supérieur, j'ai essayé de continuer. Effectivement, il y avait un peu plus de loot, mais par contre il y avait toujours le même problème, c'est que le système économique, qui lui aussi est simplifié au maximum, c'est toujours des objets aléatoires. Il y a deux marchands dans le camp de base. C'est le forgeron qui va vous donner des équipements aléatoires et un marchand itinérant qui lui va donner des artefacts aléatoires aussi. Bon, bah, pourquoi pas avoir créé un système économique ou un renouvellement toutes les demi-heures, toutes les heures, comme dans un Diablo, pour essayer soi-même de composer son truc. Bon, voilà, ça ne cherche pas à aller plus loin que ça, à faire un dungeon crawler pour les enfants. Ça fait le boulot, pas plus, et c'est largement suffisant, je pense, pour se lancer. Le jeu est disponible en plus sur le Game Pass. Si vous êtes abonné, vous n'aurez vraiment aucun regret à l'essayer et à le finir. Après, pour l'acheter, c'est pareil. Il n'est pas à un prix, on va dire, exorbitant par rapport à l'offre qu'il propose. Les fans de Minecraft eux-mêmes, en fonction de leur âge, je pense, auront peut-être plus d'appréhension légitime à se lancer dedans, parce que comme je le dis, c'est pas un jeu qui est très très profond, contrairement à Minecraft qui est une ode à la créativité. Là, bon, bah, y a rien de créatif, hein, c'est vraiment que du bourrinage. Et les enfants, eux, ont plus de chances, surtout si vous les avez bercés avec les jeux Lego ou autres. Il y a des grandes chances que ça les intéresse. Et peut-être que ça les amènera plus tard vers du Diablo ou du Torchlight ou Orc Must Die, tous ces jeux de ce style. Donc voilà, un petit jeu sympa que ce Minecraft Dungeons, même si forcément quand on est un petit peu fan de Diablo, on aurait souhaité quelque chose d'un peu plus, lourd. Voilà, tout simplement.
Et du coup, est-ce qu'il ne fait pas son taf justement en, permettant aux enfants de, s'y adonner? Parce que les dungeon crawlers un peu kid-friendly, ça ne doit pas courir les rues non plus, quoi.
Bah non, mais c'est les défauts de ses qualités, en fait. C'est que l'accessibilité, la, simplification au maximum fait que bah, y a des gens comme moi, par exemple, à qui ça n'a pas trop parlé, mais pour un môme, ou pour, on va dire, des parents avec un môme, ça peut être un bon moment à passer, ouais. Avec un univers qui est très familier et qui parle aujourd'hui à tout le monde. Souvenez-vous des chiffres de vente dont vous a parlé tout à l'heure, évidemment. Donc voilà pour Minecraft Dungeon, c'était la troisième sortie de la semaine que nous avons traitée. Et nous allons maintenant passer à l'anniversaire. Alors, un peu en retard, peut-être, parce qu'on allez, on est le 27, le jour où le podcast est publié, c'est-à-dire 5 jours après l'anniversaire initial de Perfect Dark qui est sorti le 22 mai 2000 aux États-Unis, mon cher Thomas, sur Nintendo 64.
Tu veux dire que quelqu'un aurait fait du lobbying la semaine dernière pour qu'on parle surtout de Red Dead Redemption plutôt que de Perfect Dark, c'est ça? Non, je n'en crois pas.
Absolument, absolument. Et, oh, j'ai entendu le rire de Poufy, c'est incroyable. Le rire de Poufy nous habite de plus en plus.
Ben, oui, absolument. Ouais. Je le fais rire à chaque semaine en ce moment, hein. Je ne veux pas dire, mais...
Il fallait aussi rendre justice à la Perfect Dark. Donc, on a choisi celui-ci, même si Pac-Man, ça aurait été pas mal. Mais bon, t'as pas voulu.
C'est vieux, 40 ans. Je suis pas sûr que ce soit un bel âge, si tu vois ce que je veux dire.
Non, bah, je sais pas, je suis à 41, moi, donc rien.
Ce week-end, c'était évidemment les 20 ans de Perfect Dark. A priori, vous n'avez pas pu le louper parce qu'il y a plein de sites qui se sont fait l'écho de quelques interviews des développeurs qui revenaient justement sur les coulisses du développement de cette suite spirituelle de GoldenEye 007, puisque c'était évidemment le studio Rare qui était aux manettes et qui avait été contacté très très rapidement après la sortie de GoldenEye pour savoir s'ils avaient envie de partir immédiatement sur une suite avec un nouvel épisode des aventures de James Bond. Deux problèmes, ils n'avaient pas spécialement envie, et en plus Electronic Arts avait évidemment en fourbe sécuriser les droits de l'adaptation de Demain ne meurt jamais, qui donc était la suite des aventures de James Bond au cinéma. Du coup, Rare s'est dit que c'est pas grave, on va faire un truc à notre sauce avec notre univers, notre héroïne, parce qu'en plus, voilà, ils estimaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes dans le jeu vidéo et que c'était plutôt bien d'aller dans ce sens-là. Et sortait donc il y a une vingtaine d'années aux États-Unis et dans quelques semaines chez nous, Perfect Dark, qui est l'un des derniers grands jeux finalement de la Nintendo 64. Hein. C'est un des grands FPS évidemment, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais un des derniers grands jeux qui est sorti sur cette console aussi, et dans lequel on incarne évidemment Joanna d'Arc, qui est un jeu de mots avec Joan of Arc, donc Jeanne d'Arc, mais dans sa version anglaise. Qui doit combattre dans un univers qui emprunte évidemment beaucoup de ses codes à Blade Runner, de Matrix, tout l'univers un petit peu cyberpunk de cette époque-là, contre l'entreprise Datadyne, qui est évidemment une multinationale très méchante et qui a des secrets qu'elle ne voudrait pas forcément révéler au grand public, puisqu'il y a en parallèle de tout ça une sombre histoire de marchandage avec des extraterrestres, puisque... Traz nous le répète, les extraterrestres sont déjà là, ils sont parmi nous, et Joanna d'Arc va essayer de lever le voile sur cette conspiration qui, pour le coup, en est véritablement une, en tout cas dans l'univers de ce jeu, qui se passe en 2023. Alors, tout est encore possible, hein, on voit en une année à quel point le monde peut changer, sait-on jamais où on en sera en 2023. Et en termes de gameplay, ça reprend évidemment tous les fondamentaux de GoldenEye, puisque le jeu était au départ développé sur exactement le même moteur. Alors, il aura été tellement enrichi que finalement, en fin de développement, les équipes se sont rendues compte qu'il fallait l'expansion pack pour le faire tourner, sinon c'était pas possible. Donc, c'était un jeu un peu clivant sur Nintendo 64, puisqu'il fallait l'expansion pack pour en profiter pleinement. On pouvait y jouer sans, mais c'était du simulateur de combat, c'était très 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 restreint en termes de contenu accessible. Mais si on l'avait, on en prenait quand même plein la tronche, parce que c'était pour l'époque, sur console en tout cas, un jeu qui était quand même très fin, surtout sur un hardware de 96. C'était un jeu qui faisait preuve de beaucoup de finesse, de beaucoup de détails, qui tentait aussi des choses au niveau de la gestion de la lumière. L'idée au départ était d'énormément jouer justement sur le contraste entre ombre et lumière, même si dans le jeu ça a été forcément un petit peu revu à la baisse au vu des limitations techniques de l'époque. Mais quand même, il y avait pas mal de choses. Et surtout, ça reprenait ce concept de niveau fermé avec des objectifs qui étaient de plus en plus élaborés, de plus en plus nombreux en fonction des niveaux de difficulté. Donc vraiment l'ossature d'un GoldenEye, avec en plus de belles cinématiques d'introduction qui avaient la particularité d'être doublées, ce qui n'était pas le cas sur le jeu de Rare précédent, et qui mettaient du coup vachement dans l'ambiance avec toujours les musiques, notamment de Graham Norgate, qui mettaient bien dans l'ambiance. Et du coup, le temps qui s'était écoulé entre GoldenEye et Perfect Dark a permis aux équipes de Rare de creuser la formule, et c'était un jeu qui nous immergeait finalement beaucoup plus dans son univers cyberpunk que GoldenEye ne le faisait, puisque les objectifs avaient quand même gagné en complexité, il y avait beaucoup plus de choses à faire, on avait l'environnement futuriste oblige, beaucoup de gadgets comme le laptop gun notamment, qui était au choix un ordinateur portable ou une mitraillette qu'on pouvait avoir en main, ou une saloperie d'armes en mode multijoueur qu'on pouvait envoyer sur un mur et qui mitraillait absolument tous vos ennemis. C'était assez jouissif, parce que évidemment le mode multijoueur est lui aussi de retour, ça avait été un tel carton sur GoldenEye qu'on ne pouvait pas faire autrement, et l'héritage était d'ailleurs tellement lourd qu'il y a quelques stages emblématiques du mode multi de GoldenEye qui ont réussi à arriver jusque dans Perfect Dark, notamment le niveau complexe qui est sans doute l'une des meilleures arènes pour s'affronter avec des potes. Bref, c'était d'une richesse incroyable, et on sentait véritablement le gap qui avait été franchi depuis GoldenEye. On sent que Rare avait quand même réussi à vraiment affiner et perfectionner la formule, jusqu'à proposer notamment un véritable combat final. On avait un boss fight à la toute fin sur une planète extraterrestre avec quelques petites mécaniques, il fallait faire attention aux environnements du décor et tout. Énormément de progression depuis l'épisode d'avant, ce qu'on n'aura malheureusement pas forcément retrouvé dans les opus qui ont suivi, notamment sur Xbox 360, puisque Joanna Dark était là au lancement. On a perdu un petit peu la série de vue, mais le jeu était quand même ressorti sur Xbox 360, notamment via le XBLA. Alors, c'était pas un remaster, c'était juste un lifting HD, mais qui permettait de le rendre beaucoup plus fluide. Il était vraiment optimisé, et ça permettait de profiter d'autant plus de toute sa profondeur, de tous les gadgets qu'on pouvait piloter dans certains niveaux. Et moi, je m'étais beaucoup amusé à le refaire dans cette version-là, parce que je m'étais pété les dents, moi, à l'époque, sur le dernier mode de difficulté. Il y a une mission qui m'avait vraiment empêché de le finir à 100%. Et l'âge et le développement du cerveau aidant, j'ai réussi quasiment du premier coup à passer cette saloperie de niveau quand le jeu est ressorti en HD. Et du coup, j'en étais arrêté là. J'avais refermé une page de mon histoire personnelle. Et du coup, on souhaite un joyeux anniversaire à Perfect Dark, qui est encore en multi-local, un FPS, je trouve, assez solide, et qui, dans son approche, manque un petit peu quelque part, parce que des FPS comme ça, avec des niveaux fermés et des objectifs, finalement, ça ne se fait plus vraiment. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de monde ouvert, et personnellement, j'aimerais bien revoir un titre basé sur une ossature comme celle-là, ça changerait finalement un petit peu.
Très bien, Perfect Dark, le 22 mai 2000, donc déjà, Joanna Dark à jamais avec nous, ou pas, peut-être qu'elle reviendra pas.
Il faut qu'elle revienne en pleine forme, pas comme sur 360.
Ok, très bien. C'est l'heure maintenant, comme chaque semaine, de conclure avec le hors-jeu. Le hors-jeu cette semaine qui va être une série Netflix que j'ai personnellement dévorée. Ça s'appelle Hollywood, tout simplement. Et c'est une série de Ryan Murphy. Ryan Murphy, qui est un créateur très, très en vue aux États-Unis. Il est derrière Nip Tuck, Glee, American Horror Story, plus récemment American Crime Story et The Politician. C'est une série qui nous emmène aux États-Unis juste après la guerre, hein, durant l'âge d'or du cinéma hollywoodien. On est à Los Angeles. On suit d'abord un ancien marine, donc un vétéran de la guerre, même s'il a l'air très jeune. C'est Jack Castello, qui a une belle gueule, qui ressemble beaucoup à Henry Cavill, qui a quitté sa cambrousse pour devenir une star de cinéma. Et vous imaginez bien que à une époque où les castings pour être simplement figurant, il fallait se présenter à ce moment-là à l'extérieur des studios et attendre que la chargée de production vienne désigner les personnes qui seraient susceptibles de participer à un tournage. À une période comme celle-ci, c'est pas aussi simple de se faire remarquer, surtout avec les critères de sélection des studios de l'époque, des majors de l'époque. Donc ça va pas vraiment se passer comme il veut. Il a sa femme qui est enceinte avec non pas un mais deux mouflets qui arrivent. Ils doivent absolument changer d'appartement. Ils n'ont absolument plus un rond et il va devoir trouver des solutions avec des rencontres et des événements un peu glauques qui vont finir par déboucher sur des situations on va dire un peu délicates pour lui, mais qui au final vont arriver à le faire se projeter, se retrouver au cœur d'un projet commun dans lequel on va retrouver d'autres acteurs, d'autres actrices, un jeune réalisateur et un scénariste qui sont tous pour la plupart des profils assez atypiques pour l'époque qui est traitée par la série. Alors, quand on commence la série et qu'on commence à croiser des personnalités comme Vivien Leigh ou Hattie McDaniel, qui sont toutes les deux des actrices d'Autant en emporte le vent, qu'on aperçoit le producteur Georges Cukor, que Eleanor Roosevelt aussi s'invite à un moment, ou qu'on découvre comme un des personnages principaux l'agent Henry Wilson, qui est interprété par Jim Parsons de Big Bang Theory, d'ailleurs très bien interprété par Jim Parsons, on se dit qu'il s'agit d'une série historique qui se permet quand même quelques libertés à droite, à gauche, notamment parce que le principal studio qui va être au cœur de la série, c'est un studio qui n'existe pas, Ace Studio. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout une série historique. C'est plutôt à la manière d'Inglourious Basterds ou de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, c'est de la dystopie. Voilà, c'est du what if. Un truc qu'on voit pas forcément venir immédiatement parce qu'il y a plein de faits qui ont été rapportés dans différents livres ou par différentes personnes qui ont connu l'époque, mais c'est du faux. Alors ce qui est vrai par contre, c'est les thèmes qui sont développés dedans, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, la façon dont on traite les vieux aussi à Hollywood, la façon dont fonctionne le cinéma de l'époque, qui est peut-être aussi le cas aujourd'hui d'ailleurs, avec des fabriques de comédiens qu'on a recrutés parce qu'ils avaient une belle gueule ou parce qu'ils acceptent tout simplement de donner des faveurs, et j'en dis pas plus, à des personnes qui sont haut placé, ça c'est la partie on va dire réelle, celle qui est bien décrite, mais il y a aussi évidemment des choses qui ne le sont pas, et dans les choses qui ne le sont pas, c'est le fait que les bons sentiments par exemple, ça ne triomphe pas du tout à Hollywood normalement, mais là la réécriture va permettre, et c'est ce qui rend peut-être la série réjouissante à suivre et plaisante. C'est que on va se retrouver finalement avec autre chose que qu'un destin noirci comme celui de la jeune femme qui va inspirer le film sur lequel tous ces personnages vont travailler et on se retrouve donc avec avoir un écrivain noir et gay qui va se faire embaucher, ce qui est quand même après-guerre largement impossible, mais on est très content de le voir et on aimerait que ce soit vrai d'ailleurs. Et on a aussi la façon dont une femme va devenir la patronne d'une major, comment une black et une asiatique vont pouvoir prétendre à un Oscar. Tout ça, c'est des choses qui sont inventées, mais qu'on a bien envie de croire, qu'on a envie d'imaginer, qu'on se dit « Ah, ça aurait été pas mal si ça avait été comme ça à l'époque ». Bon, évidemment, c'est pas le cas. Mais ça fait quelque chose, ça soulève un petit peu certaines émotions quand ça avance dans la série, qui est bien rythmée d'ailleurs, qui est pleine de surprises, qui est joyeusement bien écrite, avec le style, un petit peu le style Murphy, qui est un type qui est capable de vous faire passer de moments... moments dramatiques, à des moments un peu plus romantiques, à de la, on va dire de la grossièreté absolue et juste là pour détendre l'atmosphère. Il est très attendrissant par rapport aux petits jeunes qui évoluent à l'écran. Alors, je vous parlais tout à l'heure du héros qui s'appelle Jack Castello, donc qui est incarné par David Corenswet, qu'on a pu voir dans The Politician déjà, qui ressemble beaucoup, comme je le disais, à Henry Cavill, mais vraiment, c'est troublant à quel point il ressemble à Henry Cavill. On a aussi Darren Criss, qui lui était le tueur de Gianni Versace dans American Crime Story, qui était très bon d'ailleurs dedans, et qui là aussi est assez excellent dans le rôle de ce réalisateur qui veut croire en son pote gay et black, croire en son scénario, et qui veut aussi essayer d'avantager un peu sa petite amie par la même occasion. Et puis, ce que personnellement j'ai préféré dans Hollywood, c'est vraiment la vieille garde. Voilà. C'est ces acteurs un peu plus expérimentés, un peu plus âgés, qui sont mais incroyablement drôles dans la série. Alors je commence avec Dylan McDermott, qui n'est pas spécialement un senior, mais qui, encore une fois, il n'a pas été forcément gâté la façon dont il est traité à l'écran. Il ressemble beaucoup à celui d'ailleurs d'Uncharted, avec sa petite moustache, ses cheveux gris plaqués en arrière, et puis il lui enfilait une gouaille qui assez différente de ce qu'il était dans The Practice par exemple, et qui donc il va jouer un vieux macro qui est absolument irrésistible, toujours souriant et toujours avec des solutions, et qui va nous faire voir un Hollywood un peu différent de celui des paillettes et du strass. Il y a Holland Taylor aussi qui va jouer une des productrices et une des formatrices des acteurs, qui elle est absolument lumineuse, et évidemment ma petite préférée, c'est Patty LuPone, que certains connaissent, parmi vous connaissent peut-être parce que c'est la grande copine de Donald Trump. Si vous tapez Patty LuPone et Donald Trump, vous tomberez sur une vidéo d'un red carpet où elle insulte copieusement Donald Trump, et c'est un moment assez joyeux où elle explique qu'elle ne jouera jamais devant lui parce qu'en fait elle le déteste. Ça c'est une traduction, hein. Après regardez, elle le dit avec des mots un peu plus crus, et donc elle est dans cette série, elle dégage une énergie mais incroyable. C'est elle qui va se retrouver à la tête d'une major, alors que c'est une actrice ratée, qui était devenue mère au foyer, qui essaye de trouver un sens un petit peu pour s'occuper dans sa vie, et qui va se retrouver comme ça catapultée, elle va prendre les bonnes décisions parce qu'elle a le bon instinct, et elle est absolument extraordinaire. De toute façon, de manière générale, Patty LuPone, elle a un petit truc dans le regard qui est vraiment fascinant. Bref, c'est 7 épisodes pour Hollywood, c'est extrêmement divertissant, ça donnerait presque envie de retourner à Los Angeles à cette époque, sauf que c'était pas comme ça à cette époque, mais en tout cas ça fait partie des belles petites choses à regarder, je pense, en ce moment sur Netflix, si vous aimez les séries qui sont capables de prendre certains sujets vraiment difficiles et d'en faire quelque chose d'un peu plus joyeux, et d'imaginer ce que pourrait être le monde si on était tous un peu moins cons, tout simplement. Thomas.
Moi, j'ai une question, tu me le vends plutôt bien, mais est-ce que la série explique le changement dans les mentalités à cette époque-là, ou est-ce que c'est un fait qui est donné et on ne s'encombre pas de le justifier ?
Ah, mais non, il n'y a aucune justification sur le what if. Je veux dire, à la fin, il y a des choses qui se passent en termes de coming out, de révélations, de relations homosexuelles que tu ne peux même pas imaginer à l'époque, puisque de toute façon c'était puni par la loi, et que tu te retrouvais avec je sais pas combien d'années de prison juste derrière.
Donc, oui, donc on part du principe que la mentalité a quelques décennies d'avance à cette époque-là, et de là, on déroule le reste du scénario. Bah,
en fait, on part du principe que, oui, ça s'est débloqué à ce moment-là. Après, c'est de la fiction. C'est, ah, de, oui, c'est 100% fiction, et que on est contente qu'une actrice noire ait réussi à avoir un rôle important et tout. C'est des choses qui ne sont pas arrivées à l'époque. Hein. Moi, je crois que c'est... c'est Alberi, la première actrice noire à avoir reçu un Oscar, et je crois que c'était en 2002. Donc, bon, on peut se dire qu'avant, il n'y a même pas eu beaucoup de nominations non plus, hein, il me semble, de ce côté-là. Donc, non, je pense que c'est une manière de rappeler que Hollywood n'est pas forcément un endroit très resplendissant, très joyeux, où la mentalité est acceptable. C'est qu'ils ont des casseroles depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que si aujourd'hui c'est un peu plus ouvert, tu te retrouves quand même avec, de ce que je sais, des acteurs qui, une fois qu'ils ont fait leur coming out, se retrouvent sans boulot, ou quand ils ont commencé à donner des opinions politiques, c'est pareil, ils sont... placardisé, mis de l'autre côté. Et il y en a. Moi, je sais qu'il y a quelques années, par exemple, il y a pas mal d'acteurs qui avaient dit, mais si j'avais dit que j'étais homosexuel, mais vous imaginez même pas ce qui serait passé. Et il y a Rock Hudson, par exemple, aussi, qui est dans la série, dans une histoire vraiment très alternative. Lui, c'est pareil. Ça se savait à Hollywood, mais si ça s'était su en public, en tout cas assez tôt, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui circulaient. Sur ça, sa carrière n'aurait peut-être pas été celle qu'il a connue, il n'aurait peut-être pas tourné dans Géant ou dans des grands films de l'âge d'or d'Hollywood. Donc je pense que c'est plus une manière amusante de dénoncer et de rappeler à Hollywood qu'il faut se regarder dans le miroir et qu'il y a peut-être des choses aussi qui doivent définitivement évoluer dans la mentalité des majors et des Américains de manière générale, hein. Notamment les anti-masques, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est sur Netflix. Si vous êtes abonné, n'hésitez vraiment pas. Voilà.
Et on peut vous dire que si ça donne envie à Plume de retourner à Los Angeles, vous n'avez même pas idée à quel point ça doit être super joyeux, parce que c'est a priori pas gagné.
Bah, c'est surtout que Los Angeles, à l'époque, ressemble à quelque chose, tu vois. Donc forcément...
Oui, j'ai fait les noirs, monsieur, je connais un petit peu.
Ben voilà, ben exactement. Et les Noirs, et pour ceux qui... Quand j'aurai peut-être l'occasion de finir l'autre série qui s'appelle Penny Dreadful, City of Angels, qui est le spin-off de Penny Dreadful, qui se passe aussi à Los Angeles, ben là, c'est post-prohibition, si je ne m'abuse, ou pré-prohibition. Non, c'est post-prohibition, qui elle aussi se passe à Los Angeles, et le cadre est magnifique, hein, vraiment, quand c'est tout beau, tout propre, avec des belles couleurs, Los Angeles, ça fait rêver, hein, mais bon, malheureusement, c'est plus trop ça aujourd'hui.
Dans les films, donc.
Ouais, dans les films et dans les séries, absolument. Bah, je crois qu'on en a fini avec le hors-jeu, et que, pour le coup, on en a fini avec ce podcast de la rédaction, donc... On espère que ça vous a plu, que les thèmes abordés, si vous avez joué ou regardé les choses dont nous vous avons parlé, eh bien que ça va vous faire réagir dans les commentaires ci-dessous, évidemment. On vous remercie de votre fidélité. On va remercier aussi Camille, Thomas, évidemment, et Poufy, le fameux rire de Poufy.
Le pouffeur.
Voilà, qui commence à planer maintenant au-dessus des podcasts. Ah, il a encore recommencé. Hein. On l'entend un petit peu. Mais c'est...
Nous, on rire en 8 heures.
Vous l'entendez pas, mais nous, on l'entend, et ça nous fait vraiment plaisir. C'est comme s'il y avait un petit ange qui veillait sur nous pendant les podcasts. Voilà, et là, il vient de dire n'importe quoi, donc c'est pour vous dire à quel point il a beaucoup d'affection pour nous. Bon, merci à tous, encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast, et puis bah, d'ici là, n'oubliez pas de ne pas faire les cons et de bien porter un masque dehors, hein, parce que c'est pas bien de sortir sans masque en ce moment. Voilà, faites pas comme Thomas qui va à la rédaction sans masque, par exemple.
Ah bien sûr que si, mais sinon je peux pas prendre le train.
Bah, il est où ton masque alors là?
Bah, il est posé sur mon bureau, puis j'en ai un pour le retour, figure-toi, parce que tu peux pas utiliser le même. Ah bah oui, mais vous qui ne sortez pas de chez vous, monsieur Molinaro, sachez que désormais il y a des contrôles à l'entrée des gares pour vérifier que le port du masque est effectif. Et bah, alors, ça empêche pas les gens évidemment de se ruer sur les trains qui arrivent et d'être à 2 cm les uns des autres. Hein. On ne change pas la nature humaine qui est ce qu'elle est, mais je viens avec un masque à la rédaction, n'allez pas colporter des colibets à mon égard.
Très bien, très bien. Pas de diffamation de mon côté.
Voilà, sinon, ça se terminera en justice.
Pas de problème. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao.
Salut.
Ciao.